À l'écoute de Radio France Internationale, il est 23h à Paris et à Avignon, 22h en temps universel.
24h en France sur RFI.
Et prenez place pour votre demi-heure d'information consacrée à l'actualité française. Ravi de vous accueillir.
Martin Guez.
Coïncidence du calendrier, ce lundi 25 novembre correspond à la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et au début des réquisitoires à Avignon, au procès des viols de Mazan, la peine maximale a été demandée contre le principal accusé, Dominique Pellicot, ex-mari de la victime, Gisèle Pellicot. Une affaire sur laquelle est revenu aujourd'hui le Premier ministre Michel Barnier, qui a abordé le sujet de la soumission chimique et qui a annoncé plusieurs mesures pour mieux protéger les femmes. Michel Barnier, que Marine Le Pen aimerait bien renverser, la présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée, a menacé de censurer le gouvernement, idée qui plaît beaucoup à ses sympathisants. Dans le sud-ouest, victoire judiciaire des militants écologistes contre le projet de l'autoroute A69 qui n'a pas été reconnu comme un projet d'utilité publique. Enfin, nous nous mettrons à table avec Elisabeth Lequéré et avec le chef Guy Savoy, à nouveau honoré du titre de meilleur restaurant du monde. Dans la deuxième partie de 24 ans en France, nous ouvrirons une BD pas comme les autres avec notre invité consacré à l'histoire de l'art au féminin. Nous irons au Resto du Cœur dans une structure spéciale pour les nouveau-nés avec Laurence Théo pour le reportage. Nous irons en Nouvelle-Calédonie pour le journal de l'Outre-mer et interrogerons le rapport mère-fille avec le Conseil Santé. 24 ans en France, vous avez le programme, c'est parti.
Radio France Internationale.
Au procès des viols de Mazan, les premières réquisitions sont tombées contre les 21 premiers accusés de cette procédure dantesque qui en compte au total 51 pour viol aggravé sur la victime Gisèle Pellicot. La peine maximale a été demandée contre le principal accusé, Dominique Pellicot, ex-mari de Gisèle, à savoir 20 ans de réclusion criminelle. L'accusation qui a requis des peines allant de 4 à 20 ans de prison, Tanita Fallet.
Ce sera 20 ans pour celui que l'avocate générale appelle la clé de voûte du dossier, Dominique Pellicot. Une peine maximale que Laure Chabot qualifie de plafond de verre, car les peines des 50 co-accusés en dépendent. Selon cette logique, donc, 17 ans sont requis contre Jean-Pierre M., accusé pour avoir suivi le mode opératoire de Dominique Pellicot sur sa propre femme. L'accusation a ensuite requis, au cas par cas, les peines de 19 accusés. Tout au long de la journée, les deux avocats généraux se sont passés le micro pour donner leur réquisition version XXL. Les peines aussi, pour le moment, entre 10 et 13 ans de réclusion criminelle pour viol aggravé ou tentative de viol aggravé. Pour Maître Le Maire, avocat d'un des accusés, ces réquisitions ne sont pas vraiment cohérentes.
Il y a des peines qui sont, à mon avis, requises de façon très importante et peut-être trop importante. Pour beaucoup d'entre eux dont le parquet admet et reconnaît qu'il n'y a notamment pas d'acte de pénétration, c'est absolument ahurissant. Voilà.
Les avocats de la défense regrettent notamment l'absence d'individualisation des peines. Tanita Fallet, Avignon, RFI.
Le réquisitoire des 30 autres accusés qui se poursuivra ce mardi et peut-être même mercredi. Un réquisitoire qui coïncide avec la journée internationale contre les violences faites aux femmes, érigée comme grande cause du quinquennat d'Emmanuel Macron dès 2017. Le Premier ministre Michel Barnier, qui a annoncé aujourd'hui plusieurs mesures, comme l'élargissement du dépôt de plainte à l'hôpital. Michel Barnier qui a également abordé la brûlante question de la soumission chimique, qui renvoie bien sûr au procès des viols de Mazan. Valérie Cohen.
En cette journée dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes, Michel Barnier a d'abord tenu à saluer le courage de Gisèle Pellicot.
Ces derniers mois, les Français ont été profondément marqués par le courage incroyable de Gisèle Pellicot. Ce procès qui est en cours nous touche tous et j'y suis très attentif. Il pose la question encore peu connue de la soumission chimique.
Le Premier ministre a annoncé le remboursement par l'assurance maladie de kits individuels permettant de détecter une soumission chimique, cela à titre expérimental dans plusieurs départements. Autre mesure, la généralisation du dispositif qui permet à des femmes ayant subi des violences de porter plainte à l'hôpital.
Dès la fin 2025, il sera possible pour les femmes de porter plainte dans chaque hôpital de France, doté d'un service d'urgence ou d'un service gynécologique.
Le gouvernement entend aussi renforcer l'aide universelle d'urgence. Il s'agit d'une aide financière délivrée rapidement aux victimes sous certaines conditions.
Les moyens consacrés par le gouvernement à l'aide universelle d'urgence sont augmentés cette année avec plus de 7 millions d'euros de crédits nouveaux. Les moyens nouveaux mobilisés en 2025 dans le nouveau budget en faveur de cette aide permettront de répondre et d'accompagner encore plus de femmes et de les mettre à l'abri.
En France, une femme décède tous les 3 jours sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint.
Valérie Cohen du service France de RFI.
24 heures en France.
L'actualité politique et Marine Le Pen menace. La présidente du Rassemblement National à l'Assemblée a affirmé qu'elle et son groupe pourraient bien censurer le gouvernement actuel. Et ce, après son entretien, aujourd'hui avec le Premier ministre Michel Barnier. Michel Barnier est resté campé sur ses positions, a regretté Marine Le Pen, confirmant la volonté de son parti de voter la censure si le budget restait en l'état. Des propos jugés totalement irresponsables par Gabriel Attal. L'ancien Premier ministre sera reçu par son successeur demain et le chef de file des députés macronistes qui est monté au créneau face à Marine Le Pen.
La position qui est tenue par Madame Le Pen est totalement irresponsable. On ne joue pas à pile ou face avec l'avenir du pays. Michel Barnier, il n'a pas besoin qu'on le censure, il a besoin qu'on l'aide à réussir. Ça veut dire évidemment être exigeant. Et je le redis ici, augmenter le coût du travail pour la première fois depuis 30 ans comme c'est prévu dans ce budget me semble être dangereux et il y a d'autres chemins qui existent. On a fait des propositions avec les députés EPR. Mais franchement, dans le contexte que nous connaissons, tenir une position aussi irresponsable que celle que tient Madame Le Pen, jouer quelque part à pile ou face avec l'avenir du pays, sembler ne même pas se préoccuper des conséquences de ce type de choix, je pense que ce n'est pas à la hauteur des responsabilités.
Des propos recueillis par Raphaël Delvolvé, censurer le gouvernement Barnier, un scénario qui plaît pourtant bien aux électeurs du Rassemblement National. Ils sont 68% à le réclamer selon un récent sondage. Une tendance qu'est allé vérifier notre reporter Victorien Villaume dans la petite ville de Villers-Cotterêts, à une heure de Paris, où le RN est au pouvoir depuis 10 ans.
Malgré la pluie, Michael est en plein travaux devant sa maison. Que le RN appuie sur le bouton censure, il est temps, confie le sympathisant.
Il faudrait peut-être faire un petit peu plus de sujets sur l'immigration et tout. On ne parle pas assez. Vous savez, les trois quarts de ma famille sont agriculteurs. Aujourd'hui, ils sont dans la rue. Le gouvernement qu'on a là en ce moment, il n'est pas top. Sinon, il ne serait pas dans la rue.
Même impatience pour Audrey, qui vote pour le parti à la flamme depuis ses 18 ans et qui met dans le même panier Emmanuel Macron et Michel Barnier.
Il faut mettre ce gouvernement dehors, quoi. C'est toute la clique à Macron, et Macron, il y en a que pour les riches, quoi.
Et la crainte d'une crise financière exprimée par certains n'est pas de nature à lui faire changer d'avis.
On n'ira pas plus bas que où on est là. Donc non, ça me fait pas peur du tout.
Quant au fait que le RN a pour le moment évité de censurer le gouvernement malgré son statut de parti d'opposition, cela ne semble pas poser problème.
Peut-être qu'elle veut bien prendre les choses en main avant de passer à l'action, je sais pas.
Moi je vais toujours voter RN, donc... Et je voterai toujours RN.
Alors Marine Le Pen donnera-t-elle raison à sa base au risque d'être accusée de semer le désordre? On devrait avoir la réponse autour de la mi-décembre lorsqu'un 49-3 sera dégainé.
Reportage signé Victorien Villaume du service politique de RFI. Direction le sud-ouest de la France à présent, où les militants écologistes espèrent la suspension de la construction de la future autoroute A69. Le tribunal de Toulouse examinait aujourd'hui plusieurs recours. Il faut dire que ce projet a suscité une très forte contestation citoyenne ces derniers mois. Et pour la première fois, la rapporteure publique a contesté le caractère d'utilité publique accordé à ce chantier, qui permettait jusqu'ici aux concessionnaires de déroger aux règles de protection de la biodiversité. Une première petite victoire judiciaire pour Thomas Braille, fondateur du groupe national de surveillance des arbres et l'une des figures de la lutte contre la 69.
On est ravis, en tout cas, le fait qu'une magistrate se prononce en notre faveur aujourd'hui. En fait, là, c'était un vrai coup de théâtre qui s'est passé. Donc, elle a pointé du doigt que ce projet n'est pas d'intérêt public, donc majeur. Elle a pointé du doigt la destruction d'habitats d'espèces protégées. Ça a été aussi dire clairement que ce projet est un projet antisocial. Je veux dire, c'est un projet pour les riches, parce que une autoroute à 17 euros l'aller-retour, aujourd'hui, elle a clairement démontré que pas grand monde ne pourrait se payer ça. Et qu'à contrario, on allait dégrader la nationale, qui allait redevenir, du coup, une départementale avec 12 ronds-points supplémentaires. Et du coup, rallonger le temps de trajet des personnes qui ne pourront pas se payer l'autoroute. Donc, elle a mis à lumière ce que les associations dénoncent déjà depuis bien longtemps. Donc ça, c'est une première victoire. Après, on reste la tête froide. On doit attendre une quinzaine de jours pour avoir le résultat de cette audience. Dans 15 jours, si les juges se prononcent en défaveur de ce projet, il sera annulé. Si on venait à gagner, la France pourrait être dans la lignée de tous ces pays aujourd'hui qui ont décidé d'arrêter ces projets qui sont complètement écocides.
Propos recueillis au téléphone RFI de Lucille Gimbert. Écocide aussi, les pollutions plastiques qui mettent en danger les océans et la santé humaine. C'est dans ce cadre que s'ouvre aujourd'hui en Corée du Sud un sommet de négociation pour réduire les déchets plastiques. Car en l'état, leur augmentation est colossale. Ils pourraient atteindre les 600 millions de tonnes par an. Et en parallèle des efforts à faire par les différents états, les fameux petits gestes comptent aussi. Notre reporter Raphaël Morand s'est rendu dans une épicerie parisienne, une enseigne un peu particulière qui a entièrement banni les emballages plastiques.
J'avais 12 centimes. 12.
Sans attendre l'année 2030, lorsqu'il sera interdit d'emballer fruits et légumes dans du plastique dans l'Union européenne, cette chaîne d'épicerie française propose 100% de produits vendus en vrac. Ici, les céréales, merci, légumes secs et produits d'entretien sont disposés dans des grands bacs.
Voilà la moitié.
On a mesuré qu'on réduisait la masse d'emballage mise sur le marché de plus de 70%.
Didier Onretta, président des magasins Day by Day, une enseigne française créée il y a 11 ans.
On va encourager les gens à revenir avec leurs propres contenants au maximum, évidemment, dans la mesure où ces contenants sont réglementaires. Il ne faut pas prendre de risques sanitaires pour personne. Mais s'ils n'ont pas de contenants, nous, on a tout un tas de contenants réemployables mis gratuitement à disposition.
Cette chaîne compte une quarantaine de magasins, dont certains ont souffert avec la pandémie. Mais la clientèle sensible au gaspillage et à la pollution est de retour, Didier Onretta.
Seulement 26% des emballages ménagers plastiques sont recyclés. 40% vont être brûlés. À une époque où on parle d'émissions CO2, c'est dramatique. Et puis les 30 et quelques pourcents qui restent de cet écart-là, ils vont être enfouis.
Avec la réutilisation des emballages, le vrac fait partie des solutions recommandées par l'ONU pour réduire nos déchets plastiques.
Et on termine ce journal à table, mais pas n'importe laquelle, à la table de Guy Savoy, la meilleure table du monde, selon un réputé classement des meilleurs restaurants. Depuis 2015, le site La Liste répertorie plus de 35 000 restaurants dans 200 pays. Ce classement des classements a donc consacré pour la 8e année consécutive le français Guy Savoy. Mais pas seulement, Elisabeth Lecarré.
Guy Savoy serait donc le meilleur chef du monde, ex aequo avec 9 restaurants américains, japonais et chinois. Preuve que la gastronomie reste un précaré bien français, 7 tables de l'Hexagone sont présentes dans le top 25, notamment le Louis XV d'Alain Ducasse ou encore l'auberge des Cimes de Régis et Jacques Marcon. S'il y a une certaine stabilité du classement chez les Européens et les Nord-Américains, l'Asie se taille désormais une place de choix. Témoin, ce restaurant hongkongais, Lung Kin Hin, ex aequo en première place du classement avec Guy Savoy, ou encore cette montée en puissance notable de la Corée avec ses 2 restaurants de Séoul, ex aequo à la 8e place. Quant au Japon, depuis longtemps réputé pour sa cuisine, il reste le pays le plus représenté dans le classement de la liste avec 126 restaurants.
Et voilà de quoi se mettre en appétit avec Elisabeth Lecarré. C'est la fin du journal, mais restez donc avec nous tout de suite. Place à notre invité.
24 heures en France. Martin Guez.
On ouvre à présent une bande dessinée pas tout à fait comme les autres, qui réhabilite et qui rend hommage à de nombreuses femmes oubliées de l'histoire dans le monde de l'art. Une BD intitulée « L'histoire de l'art au féminin » qui retrace plusieurs siècles d'histoire pendant lesquels ces artistes ont été invisibilisés. Un ouvrage signé Marion Augustin, spécialiste de l'histoire de l'art. Marion Augustin, invitée d'Isabelle Chenu.
Bonjour Marion Augustin.
Bonjour.
Voici une bande dessinée à lire en famille, « L'histoire de l'art au féminin ». C'est un projet grand public qui est destiné à rendre aux femmes artistes le rôle essentiel qu'elles ont eu dans l'histoire de l'art.
Oui, il y a eu des femmes artistes de 1500 à nos jours à peu près, toujours, dans de nombreux pays. Et elles ont été de toutes les avant-gardes, elles ont été des précurseuses, mot qu'on utilise peu au féminin.
Alors on en découvre beaucoup, parce que celles qui datent du XVIe ou XVIIe siècle, on n'entend pas forcément parler. On peut citer leur nom. Sofonisba Anguissola, par exemple, c'est une Italienne.
Oui, c'est une Italienne qui a été formée en Italie, mais qui a aussi beaucoup travaillé en Espagne.
On peut aussi citer le nom de Lavinia Fontana, Artemisia Gentileschi. Toutes ces femmes, est-ce qu'elles ont des points communs?
Évidemment, elles ne pouvaient pas signer leur contrat, elles ne pouvaient pas accéder aux académies pour se former. Donc, soit elles étaient dans un milieu favorable à la formation, et quand bien même elles étaient dans une famille d'artistes, elles devaient être plus douées que leurs frères pour avoir du succès et pour accéder aux commandes. On s'arrête sur certains portraits, une douzaine de femmes. On avait envie de donner, pour certaines d'entre elles, des connues et des moins connues, une petite notice bibliographique et puis aussi un ou deux tableaux.
Quand vous vous êtes lancé dans cette aventure au scénario, Marion Augustin, est-ce que vous avez eu des surprises?
J'ai eu l'immense et joyeuse surprise de découvrir des dizaines, des centaines d'artistes femmes. M'appuyant sur les histoires générales de l'art, franchement, on n'imagine pas qu'il y a autant de femmes, hein, parce qu'elles sont complètement invisibilisées. Au fur et à mesure que je cherchais des liens entre les femmes, je découvrais qu'elles s'étaient influencées les unes des autres. Souvent, on connaît quelques figures qui ont eu des destins absolument particuliers. Je pense à Frida Kahlo, évidemment Niki de Saint-Phal, qui sont plus proches de nous. Et souvent, on les connaît plus pour leur vie que pour leurs œuvres. L'idée de cette bande dessinée, c'est de les montrer d'abord au travail, quand on se promène au Louvre ou au Musée d'Orsay. Il y a quand même très peu de femmes sur les 6 mètres. Je pense que c'est le cas dans de nombreux musées dans le monde entier. Il faut aller peut-être chercher dans les réserves et puis peut-être faire des politiques d'acquisition qui sont en cours. Hein.
Je me demandais aussi si les régimes politiques avaient eu une influence dans l'histoire sur la visibilité de ces femmes artistes.
Le code Napoléon, par exemple, en France, en 1804, a été un recul énorme en fait pour le travail des femmes et donc pour les artistes femmes. Inversement, il y a eu des moments beaucoup plus favorables. Par exemple, aux Pays-Bas, au moment de l'âge d'or, les femmes avaient la possibilité de travailler, d'ouvrir des ateliers.
On se pose toujours la question de savoir comment ces femmes, qui pour certaines d'entre elles ont eu énormément de succès de leur vivant, sont tombées dans l'oubli. Quels sont les mécanismes à l'œuvre ?
Il y a la préservation des archives. Pour qu'un artiste continue d'être montré, il faut que ses ayants droit continuent de valoriser son œuvre, que les conservateurs montrent son œuvre, que les historiens d'art les racontent. Et donc tout ça, ça a été des mécanismes qui ont touché les femmes, c'est-à-dire pas de valorisation, pas de préservation des archives et pas d'historiens de l'art qui s'y intéressaient. Artemisia Gentileschi, elle a été redécouverte au début du XXe siècle, alors que c'était la plus grande peintre baroque italienne.
Merci beaucoup Marion Augustin pour cette bande dessinée publiée chez Casterman. Ça s'appelle « L'histoire de l'art au féminin ».
Marion Augustin qui répondait à Isabelle Chenu du service culture de RFI.
Reportage France.
Vous connaissez peut-être les Restos du Cœur, association française créée en 1985. Il y a près de 40 ans, par l'humoriste Coluche, association qui a distribué 163 millions de repas sur l'année écoulée. Mais ce qui est moins connu, c'est le profil des bénéficiaires des Restos du Cœur. 10% d'entre eux sont des nourrissons, des enfants de moins de 3 ans. Ils sont 128 000 à avoir eu besoin de la structure ces derniers mois. Une hausse inquiétante qui a poussé les Restos du Cœur à lancer les Restos du Cœur bébé, situés au cœur de Paris. Une nouvelle structure qui compte 120 familles inscrites et qui reçoit 35 mamans par semaine. Laurence Théo s'est rendue à l'une de ses permanences. Reportage.
Stylo à la main, Catherine, responsable de l'association, est à son bureau. Elle reçoit les mamans une à une et sur rendez-vous, car cette annexe des Restos du Cœur ne se contente pas de donner de la nourriture.
On fait de l'accompagnement des familles et non pas d'une simple distribution. Ce qui veut dire que toutes les familles qui viennent ici sont reçues en entretien individuel par une bénévole. Ça dure à peu près 20 minutes, une demi-heure. On s'enquiert de leur logement, où elles en sont de leurs papiers. Et uniquement en fin d'entretien, on fait la distribution de lait, de couches, de petits pots si l'enfant est en âge. On donne de l'hygiène et on donne des vêtements.
Ce sont surtout des mamans avec leur bébé dans les bras qui poussent la porte. Une fois inscrites, elles reviendront toutes les 3 semaines.
C'est des mamans qui, en règle générale, comme vous pouvez le voir, sont d'origine africaine. J'ai pratiquement 60% de mamans de Côte d'Ivoire. Alors, les critères pour les restos bébés, c'est les gens qui n'ont pas de papier et qui ont zéro revenu. Et pour les gens qui ont des papiers, celles qui ont moins de 300 euros de revenus. Nous, la majorité des mamans, c'est des femmes étrangères.
Kouamé a un peu plus d'un an. Il s'accroche à la jambe de sa maman. Mariam, 32 ans, vit dans la grande précarité.
J'ai besoin des couches et le lait, avec des vêtements aussi. Honnêtement, je n'arrive pas à les acheter. Je n'ai aucune ressource. Je cherche un travail, mais si je n'ai pas de papier, c'est un peu compliqué.
Si dans ce local, l'ambiance est chaleureuse, tout ici est très organisé, à l'image de Catherine, humaine mais rigoureuse.
Moi, je ne veux pas que les mamans se servent, parce que si une maman prend 3 boîtes de lait, elle a peut-être la 3e, elle n'aura plus rien. Ils sont reçus dans l'autre pièce, et dans cette autre pièce, je vais vous montrer, on a des placards dans lesquels il y a la nourriture, mais on n'est pas un supermarché, hein. Il faut quand même être clair et net là-dessus. Donc ça, c'est le placard des laits. On a un placard pour les couches, numéro 3, numéro 4, etc.
Ça coûte très cher, hein, tout ça.
Très, très cher. Je voulais une fois faire le total de ce qu'on donnait à une maman. Parce que quand vous donnez une boîte de lait qui coûte, dans le commerce, mettons 12 euros minimum, un paquet de couches, que vous donnez du lait de toilette, que vous donnez les petits pots, je ne sais pas à combien on est, mais ça fait beaucoup.
Virginie, bénévole, explique que leur Resto du Cœur bébé ne peut pas toujours répondre à la demande en forte augmentation.
Vous avez les mamans qui ont traversé Paris avec leurs poussettes sous la pluie et qu'on n'a pas assez de choses à leur donner, on a mal au cœur, nous. Hein.
Qu'est-ce qui manque en ce moment ?
Produits d'hygiène, énorme, alors, produits d'hygiène pour les bébés.
Au moment de partir, on croise le petit Kwame, très fier de porter un nouvel anorak.
Le petit Kwame et son beau manteau pour conclure le reportage France, signé ce soir Laurence Théo.
Le journal de l'Outre-mer.
Nous en parlions dans le journal, ce lundi 25 novembre est la journée mondiale contre les violences faites aux femmes. Des violences qui ont explosé en Nouvelle-Calédonie. C'est à la une de votre journal, Odane Adjiali. Bonsoir Odane.
Bonsoir. 19% des Calédoniennes déclarent avoir subi des violences physiques ou sexuelles de la part de leur conjoint ou ex-conjoint. C'est un peu plus de 2% dans l'Hexagone. Les femmes vivant en milieu rural ou dans les populations kanaks sont souvent les plus exposées. Violences qui continuent à augmenter, notamment à cause de la crise en Nouvelle-Calédonie ces derniers mois. C'est ce qu'explique la présidente de SOS Violence, Anne-Marie Mestre, au micro de Médrico Peche ici, à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.
Ça continue à augmenter. Il y a eu un petit fléchissement, mais qui est, conjoncturel, dans ce sens où, depuis le 13 mai, certaines personnes ne sont pas allées signaler des faits répréhensibles. Par contre, on est de plus en plus sollicité par rapport aux violences intrafamiliales et aux dommages collatéraux que sont les violences sur enfants. Et c'est absolument dramatique parce que tout le monde sait que le sentiment d'insécurité que créent sur les enfants les violences intrafamiliales ont des conséquences importantes sur leur développement cognitif, sur les résultats scolaires, sur les comportements. Donc il ne faut pas voir, si vous voulez, les violences faites aux femmes en disant « ces pauvres dames, elles ont bien des problèmes », mais le voir plus dans sa globalité et en n'oubliant pas les enfants, la famille et les conséquences que ça va avoir sur leur développement ultérieur et sur la structuration de leur personnalité.
L'année dernière, dans les territoires d'outre-mer, 5 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. En Martinique, les seniors travaillent plus longtemps que dans l'Hexagone et c'est particulièrement le cas dans le secteur agricole. Face aux petites retraites qu'ils perçoivent, de nombreux professionnels se disent contraints de continuer à travailler. Reportage Martinique la première, Christine Cupit.
Merci, bonne adresse chez vous.
Sur les marchés de Martinique, derrière les étals, on trouve en majorité des seniors. La plupart ont déjà dépassé l'âge de la retraite. Comme Alfred, 82 ans. Il vend des fruits et légumes sur le marché de l'asile à Fort-de-France. Pour lui, travailler est une question de survie.
Oui, je suis obligé de travailler, madame. Je travaille, on m'a donné un fiche de salaire, mais je n'ai pas été déclaré à la sécurité sociale. Alors je ne touche pas de retraite. Je fais 4 ans de militaire, je suis 180 euros. Est-ce que je peux vivre avec 180 euros ?
Evelyne a encore une année avant de pouvoir prendre sa retraite. Mais cette exploitante agricole compte bien poursuivre son activité tant qu'elle le pourra.
Ce que les gens perçoivent au niveau de la retraite, ça ne leur permet pas de suivre le cours de la vie. Et puis, il y a le problème de la vie chez aussi en Martinique. J'ai un de mes cousins, alors qu'il est, il m'a dit qu'on lui donne 300 euros par mois. Alors que ceux qui n'ont pas travaillé perçoivent quand même 500 euros. Nous, agriculteurs, nous travaillons, nous cotisons.
En Martinique, près d'une exploitation agricole sur 3 est dirigée par un senior de plus de 60 ans, selon les chiffres de l'INSEE.
Des coupures d'eau plus longues à Mayotte depuis ce lundi sur tout le territoire, à l'exception de la zone d'activité de Kaweni, coupure d'eau dès 10h le matin et non plus à 14h. Et puis c'était l'événement du week-end pour les passionnés de deux roues, la 10e édition du Super Motard. Dimanche, à Saint-Paul, les pilotes de la Réunion et de l'Hexagone s'en sont donnés à cœur joie dans les différentes catégories. Le Super Motard donne l'occasion aux pilotes de moto de vivre de leur passion. Mais c'est une passion qui coûte cher, Patrick Ramoudou.
Le Super Motard, c'est toujours une grande fête. Les pilotes s'amusent, se font plaisir, mais ce plaisir a un coût et les teams ont de plus en plus de mal à vivre leur passion. Patrice Payette, ancien président de la Ligue de moto, nous parle de cette problématique.
Je trouve que au niveau de l'île de la Réunion, les instances, ils nous aident pas du tout. Et là, je tire la sonnette d'alarme. Pourquoi cela ? Quand on regarde nous, Raphaël, par exemple, en S2, il a une moto qui vaut pratiquement 30 000 euros, d'accord ? Que la moto. Après, on a les déplacements, on a les pneumatiques. Un train de pneumatiques, c'est 500 euros pour un week-end. Donc, si on fait 7 manches de championnat de France, plus les entraînements, parce qu'à l'entraînement, vous n'allez pas rouler avec des pneus usés, vous allez vous blesser. C'est pour ça, aujourd'hui, je demande aux instances locales, pourquoi ne pas trouver des solutions pour nous aider.
Et comme Patrice Payet n'a toujours pas vu de solution venir pour permettre à son fils Raphaël de réussir, il a fait ce choix.
Nous, aujourd'hui, on est obligés de partir de l'île de la Réunion pour pouvoir briller. Est-ce normal? Parce que si on reste ici, moi et Raph, on doit payer des billets d'avion tous les mois, l'hébergement là-bas. Donc, on a préféré partir pour diminuer les coûts, mais c'est pas la solution idéale.
Mais le sacrifice de Patrice Payet a tout de même permis à son fils Raphaël de devenir cette année champion de France S2 en 250 cm3.
Un reportage Réunion la Première, signé Patrick Ramoudou. Bonne soirée et à demain.
Bonne soirée à vous aussi, Odana Djali. Mais restez avec nous, 24 heures en France continue sur RFI.
Le Conseil Santé avec Sunway Assurance.
Question de femme ce soir pour le Conseil Santé. Caroline Paré interroge la relation mère-fille avec le docteur Soukaina Diop.
Soukaina Diop, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en psychologie clinique à l'université Cheikh Diop de Dakar au Sénégal. Est-ce qu'une relation mère-fille perturbée, dysfonctionnelle, ça peut avoir un impact à long terme sur la santé?
Alors écoutez, il y a plusieurs facteurs qui peuvent avoir un impact sur la santé et effectivement une relation conflictuelle d'une manière générale peut avoir un impact sur la santé par rapport au stress que ça peut causer et toutes les difficultés qui sont liées au stress comme les troubles du sommeil, les troubles de l'alimentation, les troubles de l'humeur qui peuvent être liés au stress. Maintenant, la composante relation mère-fille, effectivement étant donné que c'est une relation très importante, voire primordiale dans une vie, oui, elle peut avoir un impact sur la santé d'une personne.
Et dans ces cas-là, on se pose forcément la question, comment prendre la bonne distance?
Oui, parfois on n'a pas toujours la capacité de pouvoir se poser cette question. Parfois on est vraiment tellement dans la situation qu'on ne se donne pas forcément la distance qu'il faut pour voir ce problème. Alors oui, c'est une question importante.
Et précisément, s'il fallait donner un conseil au moment où on prend conscience du problème, vous donneriez quel conseil?
D'en parler, de communiquer. De prendre du temps pour soi et d'essayer de trouver l'espace pour en parler, pour réfléchir à soi-même, ce qu'on souhaite avoir de cette relation.
Merci beaucoup Soukaina Diop, tout à l'heure dans Priorité Santé, à l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Nous allons parler du viol conjugal, violence dans le couple, rapport sexuel non consenti, avec ou sans brutalité, avec son partenaire de vie. Identifier, prévenir, prendre en charge. On se retrouve avec nos invités, vos témoignages, à 9h10 et 1h10 temps universel, et à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
Et c'est bien noté, merci Caroline Paré. Voilà, 24 heures en France, c'est terminé. Merci à Valentin Vaner, à la réalisation François Ballarin et Vanda Marsadier, à la rédaction en chef et à la préparation. Dans quelques instants, vous retrouverez Sylvie Berruet pour la dernière édition d'Afrique Soir. Nous serons à Abidjan, où les autorités ivoiriennes confirment le démantèlement d'un réseau terroriste, et à Lubumbashi, en RDC, où les joueuses du tout-puissant Mazembe sont rentrées. Mais avant les championnes, nous, on file à New York.
Le rendez-vous de Wall Street.
Et la bourse, c'est avec Pierre-Yves Dugas.
L'indice Dow Jones commence la semaine sur un joli gain de 440 points et atteint un nouveau record à 44 737. L'indice du Nasdaq s'offre 51 points, et clôture à 19 055. Les marchés d'actions réagissent donc favorablement à la sélection de Scott Bessent comme secrétaire au Trésor par le président élu Donald Trump. Le marché obligataire est encore mieux disposé à son égard, puisqu'on voit le rendement du T-bond à 10 ans plonger à 4,27. Les investisseurs considèrent que Scott Bessent, gérant du fonds Key Square, a longtemps travaillé pour George Soros et parfaitement placé pour contenir les ardeurs protectionnistes de Donald Trump. Wall Street redoute qu'une guerre commerciale relance l'inflation et fasse chuter la croissance. Scott Bessent rassure aussi car, par ailleurs, il a toujours mis en garde contre l'endettement excessif des États-Unis et considère que l'État fédéral américain dépense trop. La possibilité d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah fait chuter l'anxiété, ce qui se répercute sur les marchés de matières premières. On voit par exemple le cours du baril de pétrole américain chuter de quelque 3% pour revenir pratiquement à 69 dollars. Le billet vert se replie également, ce qui arrange les affaires de l'euro, euro qui termine à 1,0493, alors que l'once d'or perd plus de 2% pour revenir à 2640 $. Le Dow Jones établit un record sur un gain d'1%, le Nasdaq s'offre 0,3%.
Appelez-nous, exprimez-vous. Nathalie Amar.
Comment mettre fin au fléau de la pollution plastique? Un traité mondial est à l'étude cette semaine en Corée du Sud. Alors qu'en Afrique, certains pays ont déjà interdit l'utilisation des sachets à usage unique, les lois ne sont pas toujours appliquées. Et vous, pouvez-vous vous passer du plastique?
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Retrouvez dès demain Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.